Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Donc concrètement, comme d'habitude, hein, chaque semaine, c'est un invité, un sujet technique, et on décortique le sujet, et on va au fond du sujet, et on fait des démonstrations surtout. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Sébastien, pardon,
Pas de
Dupuis.
souci.
Jean-Sébastien Dupuis, qui est évangéliste technique chez Microsoft France, Microsoft DX France,
Exactement.
évangéliste développeur. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui, Jean-Sébastien, de développement d'applications universelles sous Windows 10.
Exactement. Donc bonjour à tous. Alors, on va effectivement parler un petit peu de développement applicatif sur la plateforme Windows 10. Et juste avant de rentrer eh bien, dans les lignes de code, je veux juste préciser un petit peu ce qui s'est passé durant les dernières années et on va parler de convergence. Alors historiquement, eh bien, on avait plusieurs lignes produits. On avait entre autres eh bien, d'un côté Xbox 360, Windows 7, Windows Phone 7.5. Et eh bien, côté ingénierie, bon, on avait vraiment des lignes produits séparées. Alors, on avait un vrai défi, c'était essayer de faire un petit peu converger l'ensemble de ces portions de code. Et on a commencé à faire une première convergence avec l'arrivée de Windows Phone 8 et de Windows 8. Et là, ça s'est fait surtout au niveau kernel. Donc, il y a vraiment eu pas mal de choses faites de manière vraiment sous-jacente, mais pour les développeurs et pour les consommateurs, ça ne se voyait pas forcément. Donc, on a fait converger eh bien, le kernel. Ça a permis également d'avoir un modèle de driver unifié, ainsi de suite. Mais là où ça a commencé un peu plus à se voir, c'est avec l'arrivée de 8.1, où pour les développeurs, on avait déjà une notion de développement universel qui n'était pas complètement terminée, puisque ce qu'on proposait, c'était deux projets. C'est-à-dire qu'on avait quand même un projet Windows Phone, un projet Windows. Et ce qu'on essayait de faire, c'était de réutiliser un maximum de code entre les deux types de projets. Donc au final, on réutilisait du code, mais on avait quand même deux packages séparés qu'on compilait. Et ces deux packages, eh bien, on allait le publier sur un store Windows et un store Windows Phone.
D'accord. Donc moi qui ne suis pas développeur, pour l'instant, je comprends.
Ça va. En revanche, ce qui est bien maintenant, avec l'arrivée de Windows 10, c'est qu'on a réussi eh bien, à faire en sorte que toutes les familles de produits chez Microsoft partagent un cœur commun, qui s'appelle Windows Core. Et donc, pour les développeurs, eh bien, ça va changer effectivement un certain nombre de choses. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est on n'a pas un seul OS commun. Windows 10 sur Phone et sur Desktop, ce n'est pas le même. Mais par contre, en revanche, toutes les lignes produits de chez Microsoft, eh bien, on partage ce cœur commun, Windows Core. Donc, il y a une équipe qui a travaillé sur Windows Core et ce noyau a été distribué, on va dire, à toutes les équipes qui ont construit chacune eh bien, un OS, une famille, par-dessus ce cœur. Donc, on va avoir Xbox qui a été construit par-dessus ce cœur. On va avoir Windows Mobile, Windows Desktop, HoloLens et ainsi de suite. Donc pour les
D'accord.
développeurs, ce qui va être intéressant, c'est que vu qu'on a un cœur commun, on a pu construire par-dessus eh bien, un set, un jeu d'API qui est commun, qui s'appelle Universal Windows Platform. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser le même code et cibler l'intégralité des périphériques qu'on voit à l'écran. Alors, dans les périphériques qu'on voit à l'écran, dans les appareils qu'on voit à l'écran, on a des choses assez classiques comme du Windows Mobile, des tablettes, des desktops, et puis des choses un petit peu moins traditionnelles comme Xbox, Surface Hub qui est un écran qui peut aller jusqu'à 84 pouces, et de l'IoT.
Qui est un écran qui inclut un PC quand même. C'est
Voilà,
un PC.
exactement.
Voilà.
Et de l'IoT avec ce qu'on voit ici, là,
IoT,
des petites
Internet of
of
Things,
Things,
donc
l'Internet des objets.
objets connectés, voilà.
Voilà, ça ressemble à ça. Ce sont des
Voilà.
petites cartes de prototypage. Ici, c'est une carte Raspberry Pi 2. On supporte également d'autres choses comme les Minoboards. Mais voilà, l'idée, c'est d'être capable de faire tourner un Windows 10 sur ce type de carte de prototypage. Et donc, du coup, de pouvoir, d'un point de vue développement, eh bien, adresser également ce type de périphérique.
Donc on a plusieurs types de processeurs, plusieurs types de cartes, plusieurs types
Voilà,
d'architectures, mais
exactement.
un noyau commun donc qui a été compilé, qui a été construit sur chacun de ces processeurs.
Exactement.
D'accord.
Alors on le verra, ça a quand même une importance, je vais en reparler un tout petit peu après, gardez simplement à l'esprit que on a quand même des familles d'appareils, des familles de devices qui existent, on en a six. Donc on a fait des regroupements, on a une famille qui s'appelle IoT, une famille qui s'appelle mobile, pour reprendre tous les téléphones, on va dire, PC qui comprend à la fois tablette et desktop classique, Surface Hub, Xbox, et le dernier c'est HoloLens. Voilà, nos lunettes de réalité augmentée, sur lesquelles on pourra développer exactement de la même manière. Alors, une application universelle va, on va avoir un code qui va être commun à l'ensemble des plateformes. En revanche, eh bien, on va pouvoir adresser des périphériques qui vont aller de 5 pouces jusqu'à 84 pouces. Et là, on va avoir un défi, on va devoir répondre à un défi qui est exactement identique sur la plateforme web, c'est du responsive design. Donc nous, on va le renommer un petit peu à la sauce Microsoft, on va appeler ça de l'adaptive design. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que son application, eh bien, puisse, en fonction de la résolution, c'est ce qu'on voit à l'écran, eh bien, réadapter un petit peu le contenu. Donc là, j'étais parti sur une application plutôt desktop, donc c'est l'application courrier. Et si je la redimensionne à un form factor qui est celui finalement d'un téléphone, c'est la même application, c'est juste qu'on a réarchitecturé le design et l'interface en fonction de la résolution de l'interface.
D'accord.
Alors,
adaptif parce que l'application s'adapte.
Adaptive design, car l'application s'adapte effectivement à la résolution de l'écran. Alors, on va démarrer sur un petit exemple que j'ai réalisé, qui s'appelle ChatToy. C'est une application, c'est un catalogue de produits pour chats. Alors, je vais donc compiler en x86. Et du coup, je vais rester sur mon ordinateur local. Donc, on voit bien, j'ai qu'un seul projet ici. Ce projet, il est donc unique pour l'ensemble des plateformes. Mmh. Et je vais compiler et démarrer le projet sur mon ordinateur en local. Alors ça ressemble à ça, j'ai quelque chose d'assez classique. Voilà, c'est mon petit catalogue de produits pour chat. Donc mon préféré c'est la souris Yoda là, qu'on voit ici en bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à rajouter des choses pour s'adapter à ce design. Le premier, c'est ici, on a un contrôle qui s'appelle le contrôle Split View, qui est un contrôle de navigation, qui permet donc d'avoir un bandeau latéral qu'on peut placer à droite ou à gauche. Il n'y a pas de design qui est associé à ce bandeau, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le comportement du contrôle. Alors, par défaut, on va avoir un comportement qui est dit inline, c'est-à-dire que sur la gauche, j'ai une page qui est mon contenu principal et ce bandeau qui vient vraiment en continuité. Je vais pouvoir basculer en mode compact pour gagner un petit peu de place. Donc ça, c'est le deuxième comportement. Et si je réduis un petit peu la résolution, je vais même pouvoir basculer en mode overlay, c'est-à-dire par-dessus la page principale. Et si j'essaye de réduire encore plus la résolution pour avoir quelque chose qui ressemble à une résolution de téléphone, eh bien, tu peux constater que là, j'ai carrément supprimé le bandeau et je vais simplement l'afficher en mode overlay quand j'en ai besoin.
Overlay, c'est-à-dire par-dessus ou de l'autre côté. Hein.
Exactement.
Quand on avait une grande fenêtre, il était dans la page.
Voilà.
Et après, il passe par-dessus.
Alors, tu vois là, quand je change la résolution, je change dynamiquement les propriétés du contrôle. Alors ça, ce n'est pas un comportement du contrôle. Ça, c'est un comportement que j'ai implémenté, car il existe également quelque chose qui s'appelle l'adaptive trigger. Donc, on est capable en fait de définir des états en fonction de la résolution de mon application pour changer dynamiquement les propriétés des contrôles en fonction de la résolution. Et là, c'est ce que j'ai fait. Alors, on va regarder du coup la portion de code qui va bien. Donc là, mon application est en train de s'exécuter. Je vais juste réduire un tout petit peu cet espace. Voilà. Eh bien, c'est ça que j'ai implémenté, c'est-à-dire que j'ai défini ici des états. Donc, j'en ai trois. J'ai un état qui est dit en mode petit, ici en mode médium et un mode huge. Voilà. Quand je passe au-dessus de 1080 pixels, je suis dans ce mode-là. Et donc, finalement, on peut considérer qu'entre 0 et 600 pixels, eh bien, mon split view, j'ai une propriété que j'ai définie en mode overlay, donc pour passer au-dessus. Au-delà de 600, je suis en compact overlay, c'est-à-dire que je peux passer au-dessus de la vue, mais je peux avoir le mode compact que je t'ai montré, c'est-à-dire juste le bandeau latéral. Voilà. Et puis au-delà de 1080, je suis en mode inline, compact inline, c'est-à-dire vraiment en continuité de la vue. Alors ça, on peut le faire pour un split view, mais ça va être vrai pour n'importe quel contrôle qui est dans ma page, et ça va me permettre vraiment, en fonction de la résolution, de réarchitecturer l'interface avec les bons éléments au bon endroit. Alors, en complément, je voulais préciser un autre contrôle qu'on a rajouté pour nous faciliter un petit peu la vie. Donc, pour revenir juste un instant sur ce que j'ai présenté, l'adaptive trigger et les états, là, le visual state, on peut considérer que c'est exactement la même chose que les media queries en mode web. On a fait finalement une implémentation XAML de ce qui existe avec les media queries en HTML.
Okay.
Alors, un dernier contrôle qui est assez sympa,
le relative panel.
Alors, relative panel, historiquement, quand on souhaite disposer des contrôles les uns par rapport aux autres et qu'on souhaite faire des choses un petit peu complexes, eh bien, on peut voir à l'écran ici que j'utilise une grille. Une grille, c'est comme une table, c'est-à-dire que je vais positionner des lignes, des colonnes. Ça va créer des cellules, finalement, à l'intérieur de cette... un peu comme un fichier Excel. Mmh. Et à l'intérieur de mes cellules, eh bien, je vais placer mes contrôles. Donc, c'est assez pratique.
Et quand on redimensionne le tout, voilà, ça fait des comportements assez étranges quand même.
Ça... Alors, voilà, mais ça s'adapte quand même. Ça s'adapte un peu. On peut considérer que c'est quand même du responsive. Mmh. Bon, maintenant, il faut bien entendu pas faire des cellules qui soient de taille fixe, mais voilà, pour demander que ça s'adapte, plutôt du proportionnel, on va dire. Mmh. Donc ça, c'était ce qui existait préalablement. Maintenant, on vous propose une autre alternative, c'est le Relative Panel. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais avoir un élément de mon interface qui va être l'élément référence, ici une image par exemple, et les autres contrôles, eh bien, je vais pouvoir les placer de manière relative par rapport à cette image. Donc ici, on voit que mon premier texte bloc, eh bien, il va être placé à droite de l'image, et puis je vais lui dire, je veux que tu sois aligné par rapport au haut de l'image. Mmh. Voilà. Mes autres contrôles, je vais faire la même chose. Je veux qu'ils restent à droite de l'image et je veux ensuite qu'ils soient placés en dessous mon titre. Et je vais faire pareil pour l'ensemble de mes contrôles. Le dernier, par exemple, le bouton, je l'ai placé à droite, mais au lieu de lui dire que ça soit vis-à-vis d'un contrôle, voilà, je lui dis simplement, je veux que tu sois aligné par rapport à la ligne du bas de mon panel, donc de mon relative panel. Je veux que tu restes tout le temps en bas. Voilà, tout simplement. Et je peux dynamiquement, eh bien, si je change cette propriété, je vais éventuellement eh bien, redéplacer mon bouton. Alors on voit que du coup, il y a une synergie, il y a une complicité qui se fait entre l'adaptive trigger que je t'ai montré tout à l'heure et puis finalement ce relative panel, puisqu'en fonction de la résolution de ma taille d'écran, je vais pouvoir comme ça changer les propriétés de mon relative panel pour dynamiquement eh bien, changer le positionnement de mes contrôles. Donc ça va être assez sympa à utiliser.
Dans une résolution, dans une taille de fenêtre, ton bouton soit à droite en bas, et dans une autre, il soit à gauche sous l'image, comme ça.
Exactement.
Okay, j'ai tout compris.
Parfait. Alors, du coup, je vous ai dit que ça fonctionnait sur une plateforme locale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer quand même que ce même code, je suis capable de l'exécuter sur d'autres choses. Alors ici, j'ai un Windows 10 mobile. Donc on voit à l'écran que là pour le moment je suis sur mon écran d'accueil. Et je vais basculer du coup côté Visual Studio, je vais lui dire je ne veux pas que ça fonctionne sur l'ordinateur local. Alors déjà on va mettre sur de l'ARM puisque mon architecture processeur n'est pas la même. Je vais ensuite cibler Device. Et là il va automatiquement détecter que j'ai bien un device qui est connecté en port USB. Et je suis en train de déployer mon application sur mon téléphone. Donc au bout d'un moment, donc là je suis toujours sur l'interface, le déploiement a réussi, et là il est en train d'afficher l'écran d'accueil, je suis sur, voilà, ça va être mieux. Donc j'ai mon application qui tourne, c'est le même code, j'ai simplement recompilé en ARM et je l'ai déployé. Et là on voit que finalement le petit bandeau latéral,
il est en mode petite résolution.
Ouais,
en,
voilà, donc du coup là je peux l'afficher également, je peux le réduire. Donc on a un comportement qui effectivement s'adapte à la résolution.
Excellent.
Et on peut même aller plus loin.
Allons plus loin, soyons fous.
Du coup, j'ai ramené ici une carte Raspberry Pi, parce qu'on a dit qu'on supportait de l'IoT.
Donc ce qu'on voit, c'est celle qui est sur la petite voiture là.
Voilà, exactement. Bah, en fait, c'est ça l'intérêt des cartes Raspberry, c'est que non seulement on va pouvoir mettre un écran dessus, mais je peux m'amuser également à faire des objets connectés. Donc ici, par exemple, j'ai des moteurs qui sont connectés directement sur la carte Raspberry pour pouvoir faire un peu de robotique, par exemple. Alors là, ce n'est pas le but, il faudra me réinviter pour faire un peu de robotique si tu veux, on pourra en discuter ensemble.
Pas de problème.
Mais là, j'ai juste connecté finalement la carte Raspberry à un écran. Et je vais prendre la même application que j'ai faite et je vais la déployer sur la carte Raspberry. Alors la carte Raspberry, tu peux constater qu'elle est connectée, si tu veux, via de l'Ethernet. Donc, côté Visual Studio, eh bien, je reste en ARM, puisque le processeur est ARM. En revanche, je vais lui dire, je veux que tu compiles sur un ordinateur qui est distant. Alors, on peut même aller voir dans les options de...
Donc, ça s'appelle Windows IoT Core.
C'est Windows IoT Core, exactement. Dans les options, j'ai simplement indiqué l'adresse IP de cet ordinateur distant. Mm-hmm. Donc là, je suis en 192.168.8.102. Et voilà, l'interface de la carte Raspberry, par défaut, c'est vraiment le premier intérêt, c'est de m'indiquer l'adresse IP. Mm-hmm. Voilà. Et donc là, je suis en train de déployer mon application sur l'ordinateur distant. Et là, on va avoir ChatToy qui va s'exécuter sur la carte Raspberry. Et vu que sur la carte Raspberry, je suis capable de mettre un clavier, une souris. On a 4 ports USB, c'est-à-dire plus que sur mon laptop, ce qui est quand même pas mal. Voilà. On peut effectivement s'amuser avec cette carte Raspberry donc pour faire un mini PC distant.
L'affichage est vraiment en petite basse résolution.
Oui,
ça s'adapterait à une résolution meilleure si c'était le cas.
Exactement.
Magnifique.
C'est déjà pas mal.
Exactement.
Alors le jour où on aura des HoloLens ou une Xbox, on ramènera tout ça. Puisqu'en fait, Xbox n'a pas encore été migré sur Windows 10. Voilà, c'est en cours. D'ici la fin de l'année, on l'espère. Et puis HoloLens qui va arriver en SDK public, théoriquement au début d'année prochaine. Mais pour les US et le Canada dans un premier temps, il faudra attendre encore quelques mois, je pense, avant de voir ça en France.
OK.
À moins de partir en vacances là-bas et d'en ramener une dans ses bagages. Mmh. Voilà. Alors, je voulais juste, pour terminer, pour conclure, on a dit que le design était adaptatif. Il y a des cas de figure où vous avez vraiment besoin de faire un design qui va être différent d'une plateforme à l'autre. Dans ces cas-là, on ne parlera pas de design adaptatif, on parlera de design sur mesure. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des vues différentes entre Windows Mobile et Xbox et Desktop. Donc par famille de périphériques, choisir des vues différentes. Eh bien, vous pouvez le faire, on a des options pour le faire. On a du code qui permet de détecter sur quelle famille de périphériques on est. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de famille de périphériques. C'est là où ça va être utile. On peut détecter sur quelle famille on est et puis du coup charger la page qui va bien en fonction de la famille de device. On a une autre option, c'est simplement au niveau du code XAML, on peut préciser un suffixe dans l'intitulé de la page. Ici, ma page s'appelle main page. Eh bien, je peux faire suivre .device-family-mobile ou -xbox ou -desktop, et automatiquement, ça va aller me charger la page qui va bien. Donc, c'est plutôt pratique.
OK. Et puis, je crois qu'il y a une dernière petite chose très rapide du code adaptatif qui permet également, si j'ai bien compris, d'utiliser du code, des fonctionnalités peut-être spécifiques à chaque appareil.
Exactement.
Type d'appareil, puisqu'on a des fonctionnalités qui sont...
Alors, j'ai dit qu'on avait effectivement un cœur commun, c'est la plateforme universelle, donc on peut utiliser le même code sur l'ensemble de ces plateformes. Maintenant, on va avoir quand même des spécificités pour des familles de périphériques. Par exemple, sur mon téléphone, je suis capable de le faire vibrer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre au téléphone. Pareil, sur les cartes Raspberry, on a ici tout un ensemble de connecteurs pour aller piloter des capteurs. Ça, c'est quelque chose qui est propre à Raspberry, ça n'existe pas sur Windows. Eh bien, on va être capable, comme on voit sur la slide, d'installer des extensions additionnelles pour utiliser ces API complémentaires. Alors, ça ne veut pas dire que ça invalide le code. Ça veut dire que si j'utilise mon application, par exemple, ici, je fais vibrer le périphérique. Mon application va tourner toujours sur Xbox, va continuer à tourner sur desktop. Mais en revanche, dès que je suis sur le téléphone, je vais pouvoir utiliser ces API additionnelles. Voilà, c'est
donc
assez pratique.
Le meilleur de tous les mondes,
exactement.
Commun et spécifique.
Donc en fait, on voit à l'écran, c'est juste une ligne de code. Je vérifie simplement si mon API est bien présente sur le périphérique. Ouais. Et si elle est présente, je peux l'utiliser et faire vibrer ici pendant 500 millisecondes mon téléphone.
Donc super. Maintenant qu'on sait ce que c'est que des applications universelles pour Windows 10, où est-ce qu'on peut aller pour en savoir plus et commencer confortablement à développer des applications universelles.
Alors la ressource, c'est vraiment dev.windows.com. Voilà,
d'accord.
C'est le portail de dev. Ça comprend vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les outils de développement, les ressources MSDN pour avoir l'ensemble de la documentation officielle. Et puis également, on a fourni sur GitHub à peu près une centaine d'exemples disponibles qu'on peut utiliser pour vraiment tester chacune des fonctionnalités, donc à user sans modération. Quoi.
D'accord, dev.windows.com.
Dev.windows.com, exactement.
Jean-Sébastien, merci beaucoup pour cette introduction au développement d'applications universelles.
Merci.
C'est sûr qu'il y a, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. On l'a vu concrètement avec des démonstrations, donc c'est parfait. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre sujet pareil creusé avec un spécialiste. Vous pouvez retrouver toute notre série dans aka.ms/concrètement. Merci encore Jean-Sébastien, merci à tous et à la semaine prochaine.
Merci.